pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du
Tranche de vie, et du ciné. Petit voyage à travers nos existences.
Ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre.
Chers auditeurs de Tranche de vie, je suis aujourd'hui avec Marc Mémin, natif de Coulounieix-Chamiers, qui a déserté la commune, appelé par d'autres tâches dont il va nous parler, et qui est aussi le président de l'association Jardineau, c'est-à-dire de l'association de jardins, qui au départ était une association de jardins de cheminots. Marc Mémin a eu un parcours très mouvementé, dont il va nous parler, et nous parlerons bien entendu des jardins dont il s'occupe assidûment. Marc Mémin, merci d'avoir accepté de parler pour notre radio. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nos auditeurs vos origines coulounieroises ?
Je suis venu au monde à Chamiers. J'étais enregistré fin 42 sur les registres de la commune de Coulounieix, dont la mairie à l'époque était dans le bourg de Coulounieix sur les hauteurs. Donc je suis né près de la rivière, près de l'atelier de la voie. Mon père était cheminot et donc j'ai eu une enfance avec beaucoup d'attrait pour le jardinage, puisque mes grands-parents maternels étaient maraîchers à Chamiers. Puis quelque part, la proximité ferroviaire et le fait que mon père était également cheminot à l'atelier du matériel du Toulon ont fait que, sans trop me poser de questions, je suis rentré à la SNCF comme apprenti au Toulon. Et donc,
À quel âge ?
À un petit peu plus de 14 ans, entre 14 et 15 ans. Hein, et donc, passage obligé par les CAP. Et puis, comme sans doute je devais avoir quelques possibilités intellectuelles qui m'ont été reconnues, cette grande entreprise permettait une promotion sociale intéressante. Donc, j'ai suivi des cours qui m'ont permis, dans un premier temps, d'arriver à un niveau, on va dire, BTS. Et comme les possibilités semblaient encore être là, l'entreprise m'a payé, hein, on ne peut pas dire autre chose, hein, des études supérieures et j'ai un diplôme d'ingénieur.
Vous êtes un pur produit de la filière cheminote qui a longtemps marqué cette grande entreprise.
Ah, complètement. Donc, rentré à 14 ans et parti à l'âge de la retraite, toujours dans cette entreprise, un niveau de responsabilité que je n'avais pas envisagé au départ, mais qui, il faut le reconnaître, n'était pas négligeable, puisque j'étais un des directeurs régionaux chargés notamment de la conduite des trains et de l'entretien du matériel sur la région de Bordeaux en conclusion de ma carrière.
Alors, tout ceci vous a éloigné de Coulounieix-Chamiers. Comment y êtes-vous revenu, puisque vous avez quand même une responsabilité vis-à-vis des jardins qui existent encore et qui sont les héritiers de ces jardins cheminots ?
Alors, d'abord, je suis l'aîné d'une fratrie de 5, donc mes parents sont toujours restés là. Chamiers, c'était le point de rendez-vous familial. Bon, depuis, la fratrie s'est beaucoup dispersée, mais le petit cinquième est sur la commune de Coulounieix. Donc, j'ai toujours des attaches familiales.
Un ancrage familial qui est resté
bien fermé. Le parcours professionnel, c'est vrai, m'a m'a fait me balader au gré des mutations sur Brive, sur Paris, trois fois, sur Tours, sur Limoges. Et puis quand j'ai pu retourner sur Bordeaux, ben je suis retourné sur Bordeaux et j'y suis resté. Mais Périgueux, c'est mon port d'attache, Jamier, là sont les racines.
Je crois pouvoir dire que vous êtes retraité.
J'ai cette grande entreprise avec un contrat social qui était intéressant, et donc, compte tenu que j'y étais rentré très jeune, j'ai pu bénéficier de la retraite à 55 ans, et je l'ai prise.
Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce que vous retenez de votre expérience à la SNCF, quels enseignements retirez-vous retournant vers votre passé professionnel, et puis aussi à la lumière de l'évolution actuelle de cette grande entreprise, de ce grand service public?
Alors, ce que je peux dire, c'est que pendant toute ma durée, mon parcours professionnel, les sociétés d'agents liées au sport, au culturel, au jardinage et tout ça, étaient très prégnantes, très fortes dans cette entreprise. Et naturellement, parce que en plus j'ai un passé sportif, d'arbitre, de rugby, de haut niveau, tout cela faisait que naturellement je me suis retrouvé dans ces organisations, et en particulier le jardin du cheminot. Alors ça, c'était propre à la SNCF, il y avait un esprit de corps, il y avait une cohésion, oui, tout à fait, hein. Il y avait de la lutte, mais de la cohésion. On était attaché au statut de cheminot. C'est peut-être pas le cas maintenant.
Et aussi, on croit pouvoir dire, à l'excellence de l'outil.
Ah, complètement. Complètement. La formation basique des ouvriers à la SNCF passait beaucoup par l'apprentissage. Ce qui actuellement dans notre société est sans doute pas forcément bien vu par les parents quand les enfants doivent faire un métier manuel, alors que c'est tout l'inverse qui devrait se passer.
Ce qui subsiste quand même quand on voit le souci de perfection technique qui existe encore dans les ateliers qui subsistent ici à Périgueux et à Coulounier, et qui est très très impressionnant.
Ah, mais c'est sûr que la SNCF a toujours été en pointe de technologies nouvelles.
La nostalgie, des regrets?
Non, je pouvais rester au-delà de 55 ans. Il faut savoir profiter d'abord de la vie, hein, remercier l'entreprise, parce que ce que j'ai eu, c'est grâce à elle.
Vous avez participé à une belle aventure quand même.
Ah, complètement. Complètement. J'étais en cabine de TGV quand le premier TGV commercial est rentré en gare de Bordeaux-Saint-Jean. Donc ça, ce sont des images qui restent.
Quand on évoque ces prouesses techniques, et puis l'excellence de l'outil, et puis aussi cette cohésion interne qui a un petit peu disparu, on est un petit peu loin des jardins. Comment est-ce que vous êtes venu à ces jardins alors que vous aviez d'abord un métier d'une haute technicité, des préoccupations sportives que vous avez évoquées rapidement? Comment est-ce que vous êtes venu au jardin?
Alors ça, c'est de l'atavisme. Tout petit, j'étais souvent dans les pattes des grands-parents maternels qui étaient maraîchers. Donc déjà,
c'est vrai qu'il y avait l'héritage maraîcher du Bas-Chablis.
Donc mes parents ont toujours eu un jardin potager. Et l'aîné de la fratrie que j'étais avait ses 3 ou 4 petits mètres carrés où il faisait pousser ses 3 fraisiers, ses 2 poireaux et ses 4 radis. Donc ça, c'était le côté familial. Et puis le côté environnemental. Le bord de rivière n'était pas ce qu'il est maintenant. Il y avait un peu plus de jardin. Donc maintenant, ça a été des remblais et tout pour agrandir l'atelier de la voie. Mais moi, j'ai connu les jardins qui n'étaient pas en associatif, mais qui étaient sur du terrain SNCF, sous-traité aux employés. Donc, j'ai tout le temps vécu dans cet environnement.
Alors, de là, vous êtes passé tout naturellement à l'association des jardins, qui était une association de jardins de cheminots.
Alors, pas tout de suite, parce que j'ai vécu ma vie d'étudiant particulier, ma vie familiale aussi. J'ai deux enfants, dont un dans l'enseignement, l'autre pilote de ligne chez Air France. Donc, c'est aussi une belle réussite familiale. Donc, les déménagements et tout ont fait que... J'étais plus dans des logements de fonction où il n'y avait pas de mètre carré à retourner pour cultiver quelques salades. Donc j'étais un petit peu frustré. Et puis dans les années 70, j'ai acheté un petit peu de terrain, puis des vieux bâtiments de ferme dans le secteur de Saint-Astier. Ça m'a occupé, ça nous a occupé toute la famille pendant quelques vacances.
Un début de retour à la terre.
Et donc, naturellement, j'étais quand même en contact avec l'association. J'y étais adhérent, même si je ne cultivais pas. Et puis, de fil en aiguille, je me suis investi. Vous le savez, quand on y met le doigt, on y passe le coude, et puis tout le bras et le reste. Alors donc, voilà. Donc ça a été un engagement supplémentaire dans les autres activités associatives.
Alors votre implantation bordelaise, est-ce que ça veut dire que vos attributions régionales s'étendent à la nouvelle grande région ou...
Alors... je ne vais pas dire que...
Comment ça fonctionne, ces jardins ?
C'est simple. Donc, il y a une entité nationale, hein, système électif et tout. Donc, il y a un conseil d'administration. Je n'en fais plus partie parce que Paris n'est pas d'une grande attractivité me concernant. Donc, je me suis replié... je me suis replié donc sur Bordeaux. On a mis en place au niveau de l'association... Jardin du Cheminot, cette régionalisation et la région de Bordeaux pour les jardins a été la première déclinaison régionale, donc j'en ai été le président, j'ai passé la main et je suis toujours dedans, mais je suis aux manettes de la trésorerie.
Très important aussi. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, donner quelques chiffres, si vous en avez, pour donner une idée de l'importance de cette association de jardiniers ?
Sa population a fondu au gré du vieillissement d'abord des cheminots et d'un engouement pour pour jardiner qui s'était perdu dans les années 80-90-2000, même si on commence à revoir un petit peu une envie de revenir à la terre. Donc ça a fondu, moi j'ai connu des chiffres à plus de 100 000, et actuellement on est à 42 000 au plan national, c'est une hémorragie. Voilà, maintenant, il faut que notre association s'ouvre, ce qu'elle a fait. Alors, elle a commencé par ne plus s'appeler le jardin du cheminot. Il ne faut plus que ce soit du corporatisme, parce que la société a évolué. Notre association, elle avait...
Vous avez gardé 5 lettres quand même, hein, c'est pas mal.
Oui, mais Jardinot, c'est un petit jardin, Jardinot. Donc, même si c'est la contraction de Jardin des Cheminots, mais oui, l'association, elle a une revue. Donc là, c'est diffuser des pratiques raisonnées du jardinage. Alors, on n'est pas des intégristes du bio et tout ça. Nous, c'est le jardinage raisonné. faire son compost et tout ça.
Familial,
absolument,
traditionnel.
Dans les statuts, c'est à but familial, c'est pas pour faire du commerce. Donc il y a cette revue qui paraît tous les deux mois, qui est très bien faite. Il y a la gestion de centres de jardin. Donc, au plan national, actuellement, il doit y avoir 70 ou 75, je n'ai pas le chiffre exact, centres de jardins familiaux gérés par notre association. Et puis, on a un centre de distribution, c'est-à-dire une centrale d'achat, où on peut acheter des graines sélectionnées, des produits phytosanitaires.
Vous parliez d'une quarantaine de milliers d'adhérents actuels. Quel est l'ordre de grandeur des surfaces que vous utilisez ?
La tendance est de réduire les surfaces. Des parcelles de 100-120 mètres carrés, c'est déjà bien. Mais dans certains jardins, dont à Chamiers, il y a des fois 200-250. Il y a d'autres endroits, des petits jardins, où c'est 60 mètres carrés. Ça dépend de la géographie locale, de la demande, etc.
Mais ces terrains, est-ce qu'ils font partie du patrimoine de la SNCF? Ou est-ce que ce sont des terrains que vous louez aux communes ou qui vous appartiennent, qui appartiennent à l'association?
Alors, appartenir à l'association, je ne sais pas s'il y en a, pas sur notre territoire régional. Je crois qu'il doit y en avoir, mais c'est marginal. Donc, on n'a pas vocation à acheter la terre. On a beaucoup de centres de jardin, puisque c'est l'appellation définie, sur des terrains SNCF. Chamier, c'est un terrain SNCF. C'est un terrain SNCF, et il a la particularité d'être géré par l'association que depuis le milieu des années 90. Et ces jardins étaient loués individuellement par la SNCF aux jardiniers. Alors c'était un prix particulièrement dérisoire. Au bout d'un moment, l'entreprise, ça lui coûtait plus cher de gérer la comptabilité des quelques francs qui étaient réclamés. Donc ça ne l'intéressait pas du tout. Et naturellement, ils se sont retournés un petit peu vers moi. On a fait le nécessaire avec les gens locaux, à se mettre en association, etc. Et donc, c'est Jardinot donc, qui gère maintenant cet ensemble d'une centaine de parcelles. L'association a été créée donc, dans les années 90.
Est-ce que la mise en place de la politique de la ville, avec remodelage d'une partie du centre de Coulounier-Chamiers, surtout de Chamiers. Est-ce que ça remet en cause une partie de votre organisation territoriale? Est-ce que vos terrains actuellement sont menacés? Quel est l'avenir de l'association dont vous avez dit qu'elle s'était largement ouverte maintenant à d'autres jardiniers que les jardiniers cheminots?
Oui, à plus de 50%, ce sont des non-cheminots. Alors, pour être franc, ces jardins, bloqués entre la voie ferrée et l'atelier de la voie, qui est, faut bien le reconnaître aussi, en perte de vitesse, lui, et puis de l'autre côté, cette bande de terrain avec petite zone industrielle et tout, était, je vais dire, assez méconnu, pour ne pas dire très méconnu, de la population, de nos édiles.
Ça c'est plutôt une bonne chose, ça les mettait un peu à l'abri.
Vivant caché. Eh bien, écoutez, j'ai pas voulu appliquer ce concept. Et c'est le hasard qui a fait que cette partie qui n'est pas stricto sensu dans le périmètre du quartier prioritaire et tout ça, il est limitrophe. Donc c'est une rencontre fortuite en gare de Périgueux. je croise, je venais d'une réunion justement qui, sur les jardins, mais dans le cadre de Jardineau, et je rencontre en gare de Périgueux une personne que je connais bien, qui est une des adjointes de la municipalité, qui s'appelle Mireille Borde. Et Mireille Borde, je l'avais recrutée pour être administratrice du conseil d'administration de la caisse du Crédit Mutuel du Sud-Ouest de Périgueux-Louis Blanc, dont j'étais le président, encore du travail associatif et mutualiste. Et donc, de fil en aiguille, bonjour Mireille, bonjour Marc, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'étais, discuté de mes affaires de jardin et tout. Et c'est elle qui m'a sollicité en me disant, mais dis donc, ça m'intéresse parce que ces jardins, on ne les connaît pas, ils sont à côté. Dans la réflexion qui va être menée sur les modifications, les zones prioritaires, etc., est-ce que tu veux bien t'investir dans les commissions qui aborderaient cela ? Et voilà comment cette bande de terrain de jardin a pu être mis dans la réflexion globale, sachant que un an ou deux ans avant cette rencontre, j'avais demandé audience à monsieur le maire pour déjà lui proposer ce que j'ai proposé après, lui proposer une réflexion commune pour faire un peu de donnant-donnant, mettre à disposition le chemin traversant ces jardins pour essayer de faire un parcours de vie à construire, qui passerait par les jardins, par le bord de la rivière, l'ancien chemin de halage et tout ça. Donc l'idée déjà...
intégrer et les valoriser.
Oui, et de valoriser aussi ce bord de rivière. Alors ça, c'est mon côté natif d'ici qui m'avait fait réagir ainsi. Et puis, le donnant-donnant, c'était, on met le chemin à disposition, suivant des modalités, une convention, etc. Et en contrepartie, vous me refaites les clôtures, et puis la distribution d'eau là, dans le chemin. Bon, c'était ça l'idée de départ. Et puis, la politique de la ville, telle qu'elle s'est mise en place, a permis l'accélération de cette réflexion. Et du coup, ça dépasse le cadre de Chamier, puisque
la boucle de l'île.
Par la rive droite, avec le centre de jardin, je ne sais pas comment il s'appelle, là, côté Toulon, là-bas. Et au cours d'une réunion, et là je le dis, alors c'est pas mon idée, c'est pas moi qui l'ai eu toujours, l'appellation, les chemins du jardinier ou le chemin des jardiniers, ce parcours a été trouvé par une dame au cours d'une réunion. Je trouve qu'elle est très significative et symbolique.
Marc Mémin, on pourrait encore vous entendre très longtemps nous parler des jardins, mais le temps passe. Est-ce que vous pouvez, et déjà vous avez évoqué plusieurs vies, est-ce que vous avez d'autres vies que les jardins et tous vos engagements associatifs qui ont suivi votre engagement professionnel ? Est-ce que vous avez, alors, en d'autres termes, voilà, d'autres passions ?
Oui.
Parlez-nous-en rapidement.
Oui, oui, oui. Donc, alors, je vais laisser la famille de côté parce que ça, c'est le numéro un. J'ai 5 petits-enfants, tout va bien. C'est un vrai plaisir et c'est une vraie joie. Bon, après, côté engagement, comme dit mon épouse, ça fait quand même... certain nombre d'années que t'as pris ta première retraite, quand est-ce que tu vas prendre la seconde ? Donc, et la vie associative, souvent, elle est le soir et pas la journée. Donc, il faut lui tirer son chapeau, non pas la vie associative, mais à mon épouse, de supporter cela. J'ai eu d'autres passions, le mutualisme bancaire, Donc je suis pas banquier, hein, mais
vous évoquiez tout à l'heure.
Voilà, le Crédit Mutuel, c'est une belle machine. C'est une belle machine. C'est la banque qui est propriété de ses adhérents. Hein, c'est vraiment. Je me suis beaucoup investi. J'ai été président de plusieurs conseils d'administration de caisse. J'ai été membre du conseil d'administration et du bureau de la fédération, donc le cœur atomique de ce fonctionnement paritaire. Donc, et je suis toujours, compte tenu de mon âge, parce qu'on a mis des limites d'âge, hein, y a bien des systèmes qui devraient mettre des limites d'âge aussi. Je suis toujours administrateur de ma caisse locale, Barrière de Bègle, et puis je suis le président du cercle des poètes disparus, mais du cercle des anciens administrateurs fédéraux. Donc ça c'est une partie qui m'a pris depuis une vingtaine d'années. Et puis il y a le rugby.
Ah, il y a quand même des choses un petit peu plus distrayantes que la comptabilité bancaire.
Donc le rugby, mes premiers crampons et mes premiers nions, un club cheminot, le Copo. Donc le Copo jusqu'à 21 ans quoi. Et puis après les mutations, les études qui se sont passées, comme je vous le disais tout à l'heure, de façon pas très académique. Donc j'avais coupé le mariage. Et vers la fin des 28-29 ans, le virus était latent et il a eu besoin de ressortir. Donc c'était plus un âge où il fallait s'investir pour jouer. Et donc je suis allé vers une fonction dans ce sport qui permet d'être actif sur le terrain à un âge avancé où on n'est plus joueur, donc jusqu'à 50 ans. Et donc j'ai été arbitre, dit haut niveau. J'ai arbitré une douzaine d'années en ce qui était la première division avant la création des top 16 et top 14. Donc ça a été une vie passionnante, ça a été une école de caractère et je n'ai aucun regret d'avoir fait ça, bien au contraire. Parfois avoir raison contre tout le monde, avoir un public de plusieurs milliers qui vous conspue alors que c'est vous qui avez raison. Hein. Non pas par plaisir, je ne suis pas mazo, hein. Mais ça c'est une école de caractère. Et puis je ne m'en suis pas arrêté là, donc j'ai été élu, et je le suis toujours, au comité de Côte d'Argent, au comité de rugby, dont je suis vice-président. Et maintenant, après avoir été le responsable des arbitres, je suis le président de la commission des épreuves territoriales, donc qui vont de l'honneur à la quatrième série. Et ça, c'est un virus dont on ne guérit pas.
Chers auditeurs, je suis tenté de dire « ouf ». Parce que suivre Marc Mémin, dont je précise d'ailleurs qu'il a une carrure et une silhouette qui ne dépare pas les terrains de rugby sur lesquels il a opéré comme arbitre, eh bien, nous allons le quitter en le remerciant, en lui souhaitant de continuer à être aussi dynamique dans sa retraite ou dans sa seconde retraite qu'il l'a été dans ses vies précédentes. Merci beaucoup.
Je vous remercie de m'avoir accueilli. Donc, je me ressource en venant ici. Merci beaucoup.
Les filles veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires. De quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime.
C'était Tranche de vie. Une émission proposée par Jean-François.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle?